Bah pour vous parler du non-marketing, c'est l'application des neurosciences au marketing et à la communication. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu lassé des études de marché, du marketing à papa. Fini d'essayer de répondre aux besoins des clients, il faut aujourd'hui créer le besoin, le faire intégrer au client comme une sorte d'inception. Alors ce que les gens ont retenu du film Inception, c'est que c'était de mettre un rêve dans un autre rêve, c'est pas du tout ça. L'inception, c'est implanter une idée dans le cerveau d'une personne pour lui faire croire qu'elle vient de lui. Et donc, si vous espérez convaincre vos cibles, oubliez tout de suite. Ici, pas de conviction, car pas d'argument. Il faut faire appel à l'affectif et au sentiment de la cible. C'est de la persuasion pure et simple. Une des techniques les plus connues, c'est l'utilisation des biais cognitifs, et notamment le kalos kagatos. En grec, ça veut dire ce qui est beau et bon, ce qu'on appelle également l'effet de halo. Comme son nom l'indique, l'effet de halo va vous permettre de juger une personne sur son apparence. Ainsi, un vendeur en costume et chaussures cirées avec une belle voiture de fonction vous paraîtra plus intelligent qu'un vendeur en jean basket.
Steve Jobs, il a montré l'inverse.
Oui, on peut aller chercher Steve Jobs et Zuckerberg comme exemple, mais c'est des cas à la marge. Hein. Donc en dehors de la Silicon Valley, vous allez vous référer à ce que vous pouvez, à la montre, aux vêtements et tout ça. Ce genre de méthode est connu depuis longtemps. C'est le principe d'incitation. Il ne suffit pas de générer du temps de cerveau disponible, il faut aussi remplir ce cerveau avec ce qu'on veut lui faire penser. Par exemple, les vendeurs de voitures savent très bien qu'en vous mettant au volant de la voiture et en vous la faisant essayer, il y a beaucoup plus de chances que vous repartiez avec. D'une manière générale, mettre un objet dans les mains du client attise son désir et la volonté de conserver l'objet. Il y a une frustration à ressortir du magasin sans l'objet quand on l'a eu en main et qu'on l'a essayé. Dans un autre registre, un son, une musique peut vous évoquer une publicité ou une marque qui aura utilisé, parfois usé jusqu'à la corde, cette mélodie à la télévision ou à la radio. Dans un supermarché, on peut trouver des lumières rouges au rayon boucherie pour améliorer la couleur des viandes. Et dans certaines allées, une subtile mais artificielle odeur de pain vous rappellera d'acheter votre baguette quotidienne. Et sans oublier bien sûr le démonstrateur qui vous proposera de goûter une délicieuse tranche de jambon pour vous convaincre d'acheter le sien plutôt qu'un autre. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Il s'agit avant tout de faire appel à nos cinq sens élémentaires et à notre instinct primal afin de court-circuiter l'intellect et le processus de décision sensé. Tout cela afin de provoquer l'achat de manière irréversible. Le caractère invasif revendiqué par le neuromarketing fascine autant qu'il fait peur, surtout au vu de sa finalité. Et c'est peut-être là la limite du neuromarketing. Il ne sert qu'à faire acheter. Il utilise à son avantage des progrès de la médecine afin de servir des intérêts purement mercantiles. Et cette question bioéthique intéresse autant ses détracteurs que le législateur. La France a d'ailleurs pris la décision d'interdire les techniques d'imagerie cérébrale à d'autres fins que la médecine et la recherche scientifique. Article 16-14 du Code civil. La définition du consentement est une chose importante dans le commerce comme partout ailleurs. La loi française exige et protège le consentement du consommateur grâce notamment au délai de rétractation en cas de vente à distance ou de vente à crédit. Si le neuromarketing possède réellement l'efficacité qu'il revendique, il ne serait pas étrange de voir le législateur se pencher sur cette question du consentement de manière un peu plus poussée à l'avenir.